Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu...
Non, 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 non.
Mais qu'est-ce qu'il y a les différences de galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi l'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois d'octobre de Scène de vie vide scène, l'émission qui prend son temps. C'est une coproduction proposée par le Tangramme et Principe Actif et ça fait plaisir. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, au programme de cette émission, nous parlerons de veille.
Oui, on a en plateau beaucoup de monde aujourd'hui puisque nous avons terminé le projet Les Veilleurs d'Évreux le 22 septembre dernier. Et donc, on avait envie de faire un petit retour sur cette expérience, sur ce projet. Voilà. Qui aura duré un an, exactement, JC. Donc on accueille en plateau aujourd'hui Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Élodie,
bonjour.
Vous avez été veilleuses toutes les deux. À côté de nous aussi, Serge, qui a été accompagnateur.
Bonjour.
Et Delphine, qui a chapeauté, coordonné le projet des veilleurs.
Bonjour.
Nous ferons également un tour non exhaustif de ce qui a retenu notre attention dans la programmation spectacle vivant.
Oui, comme d'habitude, hein, nos choix, notre coup de cœur ou les incontournables qu'on vous conseille de fréquenter.
Et nous retrouverons également Christian Mousseau-Fernandez à propos justement du projet des veilleurs.
Tout à fait. Et puis, sans plus attendre, nous commençons par une autre de nos traditions. Ah non, parce qu'à la fin de l'émission, on aura aussi la traditionnelle écoute d'un extrait de film ou quelque chose qui nous ramènera vers le cinéma.
On en a pas mal des traditions maintenant, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est une émission tradition, pêche et je ne sais quoi. En tout cas, nous verrons jusqu'où ça nous emmène. Et justement, tu parlais de tradition. On a un rendez-vous aussi à chaque début d'émission. C'est un moment de vie, une captation sonore. On vous laisse la découvrir.
Qu'est-ce que parler. Passe, voilà.
Oui.
Alors, Cécile, qu'écoutions-nous à l'instant? Quelle était cette prise de son où il y avait beaucoup de monde, a priori?
Il y avait du monde. C'était hier soir, au Cadran, au Tangramme, à l'occasion de l'ouverture de la saison. Delphine, vous aviez réuni l'équipe des accompagnateurs, notre équipe de choc des accompagnateurs des veilleurs. Et alors, c'était la fin de la réunion. Vous avez entendu, ça trinque, ça boit des coups. Voilà, c'était vraiment un petit moment moment de détente. C'était important, Delphine, de retrouver tout le monde, de retrouver ce groupe qui nous a suivis pendant un an.
Oui, très très important dans le sens où les accompagnateurs étaient à peu près au nombre de 30. Et puis, c'était un petit peu le verre de l'amitié, les remerciements évidemment, et puis se retrouver. Je pense que c'était important parce que c'est vraiment des personnes qui se sont investies énormément. Certains ont accompagné les veilleurs plus de 100 fois, d'autres 50, d'autres 10. Mais l'implication, en tout cas, a été très forte pour chacun d'entre eux. Plus qu'une implication aussi, je pense, c'était un rendez-vous, c'était des rencontres avec des gens qu'ils connaissaient pas, qu'ils ont découvert. Et je pense que, évidemment, sans eux, le projet n'aurait pas pu se faire, mais c'était important qu'on se retrouve. Il y avait beaucoup d'émotions et c'était un moment très, très chaleureux, très chouette.
Alors, on aura l'occasion de revenir sur le rôle des accompagnateurs tout au long de notre émission. Et c'est vrai qu'on sent que ça rigolait et que voilà, il y a des choses qui se sont créées entre ce groupe, mais on en reparlera tout au long de l'émission.
On commence par une première pause musicale, un petit hommage, je crois.
Oui, nous rendons hommage à Charles Aznavour, hein, qui nous a quittés, qui a été inhumé aujourd'hui, avec « Je me voyais déjà ».
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Thank you. Charles Aznavour, nous aurons tous reconnu, bien entendu. Et c'était annoncé par Nathalie juste avant, je me voyais déjà.
Alors, nous accueillons en plateau, je rappelle, Delphine, qui a été la coordinatrice hein, du projet, qui a mis en œuvre vraiment le projet des veilleurs. Serge, qui a été accompagnateur des veilleurs. Mathilde et Élodie, veilleuses, qui ont vraiment vécu cette expérience. Delphine, est-ce que vous pourriez nous rappeler, justement, ce qu'était ce principe de veilleur et pourquoi il y a eu des veilleurs d'un côté et des accompagnateurs de l'autre?
Le projet de Johan Letton était en fait très, très bien construit dans le sens où il y avait... Le veilleur s'inscrivait pour veiller, évidemment, mais il n'était pas tout seul. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas, je veille, pour qui, pourquoi. Il y avait tout un processus qui était extrêmement bien fait, qu'il fallait respecter, pour la bonne raison que tout devait être assez bien organisé. Le futur veilleur s'inscrivait, il avait un atelier préparatoire mené par un comédien professionnel, qui était Benoît Marchand et Alexandre, qu'on fait un travail formidable, qui ont été formés par Johan, justement pour se préparer à vivre cette veille d'une heure seule dans l'objet abri, sans montre, sans portable, sans appareil photo, etc. Donc ça, il y avait toute une mise en préparation de ça, et le veilleur, quand il arrivait au rendez-vous dit, alors évidemment en fonction de l'heure du lever du soleil et du coucher, il n'était pas seul, il n'était jamais seul, sauf dans l'abri en fait. Et il y avait l'accompagnateur qui avait un rôle très important, qui veillait sur le veilleur. Il accueillait le veilleur une demi-heure avant le début de veille. Il lui proposait un café. Ils se rencontraient, donc ils pouvaient échanger pendant une demi-heure dans ce qu'on appelait la cabane, qui était un petit appartement, enfin une belle cabane aménagée, très bien décorée par l'équipe du Tangram, avec un canapé, des livres, une machine à café. Donc il y avait une bonne mise en condition. À l'heure dite, l'accompagnateur disait, voilà, il y avait un petit réveil et très important, et l'accompagnateur disait, voilà, maintenant c'est l'heure, on laisse sa monte, c'est une heure pour vous, c'est très important, et on y va, on monte sur le toit. L'accompagnateur installait le veilleur dans l'objet abri, et le veilleur n'avait plus qu'à vivre ce moment pour lui. Et au bout d'une heure pile, l'accompagnateur venait chercher le veilleur. Pendant cette heure de veille aussi, l'accompagnateur prenait vraiment soin du veilleur. On avait des petites techniques pour ne pas déranger le veilleur et tout en pouvant l'observer pour voir si tout allait bien, si se sentait bien. Donc c'était un petit peu l'œil, l'accompagnateur veillait sur le veilleur. Donc voilà tout ce processus, et puis après l'accompagnateur descendait le veilleur dans la cabane, le veilleur prenait son temps pour écrire ses impressions de veille, et puis c'était pas fini. Voilà, on se disait pas, l'accompagnateur et le veilleur se disaient pas au revoir pour toujours, hein, puisque Johan a bien construit le projet, puisqu'il y avait la soirée trimestrielle. Donc là, la soirée trimestrielle, tous les accompagnateurs, tous les veilleurs se retrouvaient pour échanger sur leur veille, pour que les veilleurs puissent échanger sur leur veille. Et c'était des soirées extrêmement intéressantes, mais émouvantes aussi, dans le sens où le veilleur pouvait, c'est là aussi où le collectif prenait toute sa place, c'est que le veilleur rencontrait d'autres veilleurs qui avaient veillé, ils échangeaient, ils se rencontraient, et c'était des moments très touchants en présence de toute l'équipe du Tangram, de Johan, ça permettait aussi à tous les veilleurs de rencontrer l'équipe, et c'était des moments, je pense, où on se sentait pas seul après avoir veillé, quoi.
Je rappelle que c'est vrai que la veille se faisait sur le toit du parking de la place Clémenceau, oui. Donc oui. Sur un lieu atypique,
oui.
Et donc de construire cet objet abri en haut, plus cette cabane d'accueil, voilà, c'était un lieu également insolite qui n'était pas dédié à une fréquentation publique habituelle.
Il fallait veiller pour avoir le privilège d'aller dans cet objet abri.
Alors,
j'imagine d'ailleurs, oui, que ça doit contribuer à la mise en condition d'accéder à des lieux particuliers. Enfin, le fait d'être dans un lieu dans lequel on n'a pas accès, d'être sur une construction éphémère aussi, enfin éphémère du coup à la tenue de l'année, hein, mais du coup d'être dans ce type d'endroit favorise, j'imagine, aussi cette ambiance particulière qui est nécessaire à la veille, non?
Oh bah, je pense que Serge à côté de moi pourra parler. Il connaît bien le lieu puisqu'il a accompagné plus de 100 fois, donc c'est le matin, c'est le soir, c'est un lieu qui nous est tous marqués, je pense, parce que c'est ce privilège d'y être, et puis il y a une vue imprenable quand même sur Évreux, quoi.
Alors, du coup, j'ai envie de me tourner vers Serge, vers vous, Serge, sur ce lieu qui est devenu, voilà, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Puisque vous avez accompagné énormément de veilleurs, et je présume qu'il y a une histoire qui s'est établie entre vous et ce lieu. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que représente cet objet, déjà, ce lieu, et de cette démarche?
Ce lieu m'a effectivement permis de rencontrer tellement de gens différents, avec une approche et une sensibilité tellement différentes par rapport à ce projet, où malgré tout on retrouvait un petit fil rouge, puisque tout le monde venait de manière volontaire. On ne mettait pas le couteau dans le dos en disant vas-y, c'était pas le débat. Donc c'était une démarche volontaire, et par rapport à ça, chacun avait sa... Malgré la centaine de personnes, de veilleurs que j'ai accompagnés, je me suis aperçu qu'en fait, chacun ou chacune avait une motivation différente. Ça peut être un anniversaire, une rencontre... voilà. Et j'ai adoré ces rencontres avec ces personnes. Et ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est de pouvoir les préparer à la veille. Alors là, ça a été un petit peu... c'était plus au feeling. J'incitais le veilleur, non pas à purement une observation extérieure, à se laisser happer par ce qui se passait en dehors, mais beaucoup plus à aussi veiller sur lui-même. C'est-à-dire, à ce moment-là, de faire une sorte de voyage intérieur et de laisser se rencontrer les émotions.
Oui, pardon Serge, parce que vous avez été accompagnateur, mais vous avez été veilleur également, puisque c'était la condition hein, pour pouvoir accompagner, il fallait avoir veillé. C'est l'expérience de votre propre veille qui vous a conduit en fait à accompagner les autres veilleurs.
C'est vrai, j'ai veillé le 11 novembre. Mais là, c'était vraiment un hasard. J'avais motivé ce jour-là par... C'est un jour où je n'ai pas de réunion. Voilà. Donc, j'ai donc veillé le 11 novembre, jour de marché en plus. Yeah. Voir et être vu. Super. J'ai vu que des parapluies.
Oui, mais les parapluies vous ont vu.
Je peux vous décrire toutes les couleurs si vous le souhaitez.
Mais cette histoire de cheminement intérieur dont vous parliez, finalement, est-ce que c'est un peu ce que vous avez, vous, traversé au moment de votre veille? Et du coup, c'est ce qui vous a conduit à encourager les veilleurs que vous avez accompagnés après à être attentifs à ce voyage, finalement, personnel et intérieur aussi? Ou c'est quelque chose qui est venu après votre propre veille
Vous avez raison, c'est bien les deux aspects, en fait. Le premier, c'est que je n'avais rien pour me laisser happer par ce qui se passait à l'extérieur. Les parapluies, bon, une fois qu'on a assisté au balai de ces parapluies, après, bon, voilà, on passe à autre chose. Et donc, n'ayant plus rien pour accrocher mon regard à l'extérieur ou mon attention ailleurs, je n'ai pas eu que d'autre choix que de me laisser aller à un cheminement intérieur. Et là, à ce moment-là, bah, ça divague, ça va dans tous les sens un petit peu.
Oui. C'est justement comment aussi transmettre cette expérience, parce que vous avez vécu cette veille avec ce chemin intérieur, comme vous le disiez, cette orientation que vous proposiez aussi aux veilleurs lorsque vous les accompagniez. Comment en fait le veilleur qui n'a pas encore fait sa veille finalement, qui est sur un terrain complètement vierge encore sur ce sujet-là, comment est-ce qu'il prend aussi cette transmission en fait que vous proposiez? Parce qu'en fait, on parle de quelque chose qu'ils n'ont pas encore vécu, du coup, quand on accueille le veilleur.
Tout à fait. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une démarche volontaire de leur part. Donc, ils prenaient un petit peu le risque. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, effectivement. Alors, c'est vrai que j'en ai eu l'écho par leurs écrits, et puis ils me l'ont dit. Je les ai aussi rassurés. Je les ai rassurés parce que bon, se retrouver quand même dans un lieu sans montre, sans téléphone, sans MP3, sans rien de tout ça, livré à eux-mêmes dans un endroit quand même relativement clos. Alors il y en a où étaient un petit peu sujet au vertige, où ils pouvaient rester debout une heure. Enfin bon, il y a tout un processus là qu'il fallait que je respecte aussi. Et donc, mon rôle, c'est aussi de les rassurer pour que ce voyage intérieur se passe le mieux possible.
Eh bien, justement, je vous propose une pause musicale avant d'aller questionner un peu plus précisément, justement, l'expérience de veilleur. Juste après ce titre, on en parle après, hein. On fait ça comme ça.
Love.
RH avec le titre La boxeuse amoureuse. C'est un choix de Delphine Lainé, pardon.
Et oui.
Quelques mots peut-être sur ce choix. Il vous évoquait quelque chose en particulier?
Bah déjà, je trouve ce titre vraiment magnifique. Et puis j'ai choisi aussi ça parce que on a tous aimé ce projet. Enfin, l'équipe du Tangram, en tout cas, on était amoureux de ce projet, et puis c'est pas rien, 730 jours, 365 jours, 730 veilleurs, pardon, c'est tous les matins, c'est tous les soirs, il n'y a pas de répit. Donc voilà, je trouvais que ça avait une résonance, en tout cas pour moi, très forte.
Eh ben merci pour ce choix.
Alors tout à l'heure, on s'est quitté avant notre pause musicale avec Serge qui parlait de, il fallait rassurer les veilleurs qui arrivaient pour leur veille. Alors je me tourne vers Mathilde et Élodie. Comment on est à la bord d'une veille justement? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Voilà, comment on est dans sa tête?
Écoutez, moi, comme c'était à 5h21 que je suis arrivée là-bas, il n'y a pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose dans ma tête, en fait. Mais non, mais justement, moi, c'est pour ça que j'ai choisi le matin, c'est que je sais que c'est comme effectivement la fin du jour, une période où il y a un calme, quel que soit le bien-être ou le mal-être sur le reste de la journée, il y a une période d'accalmie à ce moment-là. Et enfin, je trouve que c'est un moment magnifique, et moi c'est pour ça que j'ai voulu aborder la veille le matin et voilà, au début du jour, et je n'ai pas été déçue voilà, ni par la température frisquette.
Élodie?
Oui, moi je vais pas tellement stresser en fait. Sur le moment, je devais même pas le faire la veille, et du coup je me suis retrouvée à faire la dernière. J'ai stressé quand je suis arrivée au cadran à la réunion et que j'ai vu dans les yeux de Delphine et de Benoît un espèce de truc magique, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, de quoi je vais faire partie en fait. Donc ça m'a mis un peu la pression, mais le matin même j'étais pas stressée en fait. Je suis sortie de chez moi à 7h, il y avait les cloches qui retentissaient dans Évreux, et c'était vide de monde. Arrivée près du parking, j'ai croisé un couple en train de se disputer, je pense un peu ivre de la veille en fait, c'était assez drôle. Et donc je suis arrivée, c'était Christian qui était là, et comme Serge, hein, tout de suite rassuré, il nous a mis dans un petit cocon, il y avait Delphine aussi qui était ici, enfin qui était avec nous. Et non, c'était un moment, c'était l'amorce en fait du calme qu'on allait avoir à l'intérieur, mais là on était entouré, après on était tout seul, mais c'était quand même un moment calme. Voilà.
Du coup, ce calme, c'est presque un calme programmé. Enfin, il y a une condition dans laquelle vous vous êtes retrouvé, parce qu'effectivement, ça va être calme une veille, mais on s'y prépare, on y va. C'est une démarche. C'est quoi? C'est une démarche qui met au calme. Enfin, je cherche un petit peu les sensations derrière tout ça.
Alors pour moi, c'était presque comme aller méditer une heure, en fait. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est passer une heure en fait avec soi. Donc quand on médite, on a l'habitude. Mais je pense que pour la plupart des veilleurs, ça a été comme compliqué en fait. Pas de téléphone, pas de portable, comme tout le monde disait là. C'est vrai que pour plein de personnes, c'est pas évident. Mais moi, je pense que j'y allais dans l'optique, voilà, de regarder la ville qui grouillait sous nos pieds, alors que nous, on reste calme et détendu, et qu'on réfléchit à plein d'autres questions que le marché, les carottes et les tomates.
Il y a cette sensation de décalage entre l'ambiance dans laquelle vous êtes, et puis vous évoquiez à l'instant, Élodie, le monde qui grouille en dessous.
Ah bah c'est pire qu'un décalage en fait. Hein. C'est... Enfin, puis en plus, moi, c'était la dernière. Donc, il y avait des veilleurs en bas qui me regardaient, qui avaient le petit badge orange, donc je les avais repérés. Il y avait Johan, enfin, il y avait tout le monde qui m'attendait, en fait. Mais
c'était une veille sous pression, là, pour le coup.
Oui, mais pour autant, quand je suis sortie de la cabane à Brie, j'ai été d'un calme. Enfin, c'est rare que je sois aussi posée, en fait. Ouais, non, c'est quand j'ai vu le soleil se lever sur Saint-Michel, je pense que ça m'a plombé complètement. Ouais. Ça m'a vidé de tout, en fait. Et pour commencer une journée, je pense qu'il n'y a rien de mieux, en fait. On devrait faire ça tous les matins.
C'est vrai que le lever du soleil ou le coucher du soleil, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais c'est quelque chose qui a été très fort chez les veilleurs, enfin, des retours que j'en ai eus.
des veilleurs qui m'ont dit, moi je suis restée scotchée, c'est incroyable, ce lever qui vient taper sur la petite cloche du beffroi qui fait une espèce de scintillement. Beaucoup, enfin ceux qui ont eu la chance, et il y a eu un magnifique été, un très beau mois de septembre, enfin c'est pas le cas pour tout le monde, hein, tout le monde n'a pas vu le soleil sortir, mais c'était assez magique.
Et il y a une histoire de lenteur aussi là-dedans. Enfin, c'est moi, c'est ce que je sous-entends dans tout ça. Regarder un soleil se lever ou se coucher, c'est lent. Ça peut être magnifique. Il y a beau se passer beaucoup de choses, mais c'est lent. Et peut-être une lenteur dont on a perdu l'habitude d'ailleurs au quotidien. Mais voilà, c'est une lenteur que vous avez observée vous aussi. Je sais pas là, je pêche. Hein,
oui,
mais,
oui,
moi ça me renvoie à ça.
Moi, je l'ai observé parce qu'en fait, à l'inverse de ce que disait Serge tout à l'heure, moi, il y avait, et toi également, moi, il y avait peu de gens sur la place du marché ce matin-là. C'était justement, j'avais voulu que ça ne soit pas un jour de marché pour qu'il n'y ait pas trop d'agitation. Et en fait, je me souviens très bien de ce que j'y ai vu. Et à l'inverse de Serge qui finalement est rentré en lui-même parce qu'il y avait trop, finalement, c'était trop touffu dehors, enfin, et puis ça n'avait plus grand intérêt. Moi, à l'inverse, j'ai pu observer comment la ville s'est réveillée. Et je me souviens encore, finalement, là, c'est revenu d'un monsieur qui a coursé un oiseau, que les oiseaux ont fait une espèce de course-poursuite. Enfin, je veux dire, voilà, c'était leur moment. Et enfin, voilà, moi, j'ai vu plein de choses. Et, mais par contre, non, le lever du soleil, je ne me rappelle pas.
Il n'était pas là. Lui, il était caché.
Je crois que dans ce projet, la proposition est la même pour tout le monde, mais ça renvoie en fait à une diversité incroyable derrière, parce que quand on, je sais pas, c'est une question que je vous pose à vous Serge et à vous Delphine, parce que chaque personne est une personne unique, et donc chaque veille doit en fait être une aventure, une histoire différente à chaque fois dans les retours que vous avez pu avoir. Et je suppose que les textes qui ont été écrits à l'issue de la veille, puisque le veilleur témoignait par écrit à chaud vraiment de sa veille, je sais pas, est-ce que ça témoigne de ça, de cette multitude de perceptions et de diversité, Serge?
Effectivement, je crois que comme je m'en suis fait l'écho tout à l'heure, chaque personne, enfin chaque veilleur avait sa propre motivation, et c'est vrai que dans le rendu des par les écrits, il y en a qui ont eu beaucoup de mal à faire remonter leurs émotions et surtout à les transcrire sur du papier, ce qui n'est pas toujours forcément évident. Et d'autres qui se sont, par contre, largement étalés dans ce rendu. D'autant plus aussi que, j'en profite pour préciser que à la fin de chaque veille, je disais aux veilleurs, maintenant que vous avez veillé, c'est bien, il faut toujours commencer par là. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'être accompagnateur, d'être un petit peu de l'autre côté du miroir. C'est très intéressant aussi.
On a évoqué la notion de, effectivement, de veiller, de voir la ville s'éveiller, le soleil se lever et toutes ces choses-là. Et puis on abordait aussi cette notion d'être vu. Ça aussi c'est particulier parce que finalement elle était très en vue, cette cabane pour veiller. Ce regard, enfin cette façon d'être posté à un endroit très visible, ça vous a renvoyé des choses ou pas? Ça peut pas être neutre, forcément.
Non, je pense qu'il y a une petite gêne les premières minutes, en fait, quand on voit qu'il y a tout le monde en bas et qu'il y a des gens qui nous regardent et qui nous font coucou. Et du coup, on a tendance à aller, enfin, je sais pas pour Mathilde, mais moi, j'ai eu tendance très vite au début à retourner vers le fond de la cabane, où là, on voyait personne. Et du coup, là, je regardais la colline de Saint-Michel, c'est là que le soleil s'est levé, tout ça. Et en fait, de temps en temps, j'allais remarcher jusqu'au-dessus de la place du marché. Et non, je repartais vite de l'autre côté quand même. C'est vrai que de voir tout ce monde en fait qui nous regarde, on se sent pas forcément très à l'aise. Donc faut occulter en fait, soit faut regarder ailleurs, soit faut rester en soi du coup, enfin rester comme dans une méditation encore et aller à l'intérieur de soi-même.
Après, c'est vrai que il n'y a pas du monde tout le temps sur la place. Ça dépend. Sur une année, il y a eu des veilles à 5h30. Il y en a eu d'autres à 16h. Au mois de décembre, c'était 16h, la sortie d'école. Donc, en fait, je pense que ce que tu disais, Nathalie, c'est très juste. Chaque veille, enfin, chaque veilleur a vécu une veille pour lui, et ce qui fait 730 veilles différentes, quoi. Il y en a qui ont eu... on se retrouve quand même face à soi-même, hein. C'est pas évident aujourd'hui, hein, avec tout cet Internet, ces portables, où on n'est jamais seul, au final. Et là, à un moment donné, bah oui, on est seul, et en plus, on peut être vu, quoi.
Justement, sur cette notion de voir, être vu, il y a... un peu moins d'un an, du coup, en septembre 2017, quand on a lancé le projet, nous avions également fait une émission Scène de vie avec une petite équipe de veilleurs aussi, ou de futurs veilleurs. Et ce dont je me souviens, c'est qu'au début du projet, les gens ne levaient pas la tête. Pour ma part, j'ai veillé au début du projet. Et les seuls qui levaient la tête vers l'objet abri, c'était les enfants. Mais les passants qui passaient levaient pas la tête. Ouais. Et je pense que dans l'inscription aussi dans la ville de l'objet, je pense que il y avait plus aussi d'interaction. Enfin, cette notion d'être vu a dû être un peu plus présente sur la fin du projet, puisque l'objet avait pris sa place aussi dans la ville. Voilà. Et c'est vrai que je pense que plus de personnes levaient la tête voilà, au bout d'un an, parce que l'objet faisait partie aussi de la ville et du paysage urbain. Il y a justement, par rapport à ce paysage, est-ce que le fait d'avoir vu la ville sous un autre angle, qu'est-ce que vous en gardez? Est-ce que ça a changé votre regard sur la ville, sur les gens? Là, je me tourne vers tous les quatre, hein.
Écoutez, moi, j'adore Évreux, donc en fait, les couchers de soleil et tout ça, je les vois depuis chez moi et j'en suis très très contente. Mais par contre, effectivement, c'est une heure, je me souviens toujours très bien. J'ai toujours une ou deux images qui me reviennent de cette veille. Et moi, c'est une espèce d'image en cinq dimensions, c'est-à-dire à la fois l'image... visuel et en même temps la sensation, comme tu disais, de calme. Enfin, c'est une espèce de package. C'est une sensation effectivement très curieuse d'être postée là avec pratiquement pas de bruit, parce que moi il y avait, donc c'était 5h53, la ville se levait à peine un jour de semaine. Et voilà, et donc c'était vraiment méditatif, comme tu disais. Et c'était un peu hors du temps. Et moi, quand on m'a fait coucou, il y a une personne qui m'a fait coucou, ben, j'ai pas répondu. Enfin, j'ai fait comme si j'étais une statue et que t'es gentil, toi, tu restes à ta place. Et moi, je suis dans ma tour. Voilà, quoi. Ce qui est pas sympa, mais voilà.
C'était la façon de le vivre. Ouais, c'était la façon de le vivre à ce moment-là.
Après, je pense que sur la ville, notre regard qui a changé sur la ville, je vais peut-être plus dire un petit mot sur collectivement. Je pense que les veilleurs, quand on les a retrouvés à la clôture ou quand on les retrouvait lors des soirées trimestrielles, les retours qu'on en avait, c'est mais oui, il s'est passé quelque chose dans la ville d'Évreux, c'est inscrit, c'est ancré, on se connaît. On a fait plein de rencontres, il y a énormément de gens qui l'ont fait aussi parce qu'ils étaient seuls et qu'ils avaient aussi envie de rencontrer d'autres hébroïciens ou hébroïciennes. Et du coup, je sais pas, moi, la petite conclusion, j'ai envie de dire, ça a existé et ça restera sur la ville d'Évreux. Je pense que c'est bien pour la ville aussi, ça a changé le regard. Oui, c'est possible, un projet participatif.
Oui. Moi, je voulais ramener, j'avais une question, ramener plus dans le projet artistique de Joanne Letton, puisque c'est une chorégraphe, hein, qui a conçu ce projet, et me tourner vers vous quatre. Quand on regarde ce projet, c'est vraiment c'est un projet participatif, artistique participatif, et qui avait vraiment en charge de faire sentir aussi ce qu'était la notion d'interprète. Est-ce que vous avez eu cette sensation? Est-ce que vous avez pensé à un moment ou un autre, avant, après, au moment de la veille, à cet aspect de être spectateur d'un spectacle, être interprète de quelque chose?
Tu veux répondre, Elodie?
Oui, j'en meurs d'un.
C'est une question pas simple, hein, quand oui, même. Ouais, ouais.
Oui, non, en fait, pour moi, on était les danseuses de Joanne, en fait.
Ah, oui.
Donc moi, du coup, je suis passée en dernière, donc j'ai fait la soirée de veille avant de veiller, donc c'était un peu spécial, du coup. Je savais à peu près à quoi m'attendre, du coup, même si en fait, non, pas du tout. Et non, en fait, on est ces danseurs, en fait, donc il faut, on apprend pendant l'atelier de préparation à se tenir bien droit, à ancrer les pieds dans le sol, voilà, avoir une posture, enfin, qui est bénéfique pour notre dos. Voilà, on souffre pas, ça fait pas mal, on est bien. Et on obéit à Joanne, puisque je pense que c'est elle qui a dû donner les directives aux animateurs du petit atelier de préparation. Donc oui, on est ces danseurs, en fait.
Ouais, ouais, voilà. On fait partie. Je pense que chaque veilleur se sent faire partie d'un projet à part entière et pas rien, quoi. 365 jours.
Mais même
un an, un spectacle d'un an.
Oui, c'est
ouais,
ça.
Matin
même
et soir.
Plus que ça fait 7 ans, c'est ça?
C'est alors, la 7e année.
Donc, c'est un truc, enfin, on fait partie de quelque chose de bien plus énorme que juste Évreux, en fait.
C'est tout à fait. Ouais.
Alors, justement, je pense qu'on va pouvoir faire notre deuxième petite pause musicale. Elodie et Mathilde, c'est vous qui nous l'avez amené, cette pause musicale. Donc c'est Mio Sec avec Nous Sommes. C'est juste pour le plaisir d'écouter Mio Sec ou parce que ça résonne aussi un petit peu avec le projet?
Pas du tout, c'est parce que j'adore Mio Sec et qu'en plus il a une chanson qui est un peu en résonance avec l'écologie, qui est mon gros dada, voilà.
Donc juste pour le plaisir, on écoute Mio Sec, Nous Sommes.
Comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat emboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants. Nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants. Était déjà fait, on n'a plus le temps, mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes.
C'était Mio Sec avec le titre titre nous sommes, un titre que Mathilde nous a ramené. Nous poursuivons parce que nous avons beaucoup échangé, notamment avec les veilleurs, les accompagnateurs, les animateurs de ce projet. Mais Nathalie, tu as fait une autre rencontre autour de ce projet.
Oui, je suis allée interviewer, c'est un enregistrement que nous allons vous diffuser, le directeur du Tangram, Christian Mousseau-Fernandez, qui a donc programmé ce projet. Et voilà, on l'a interrogé sur ses raisons et qu'est-ce que ça avait apporté à la structure et aux personnes.
Ce projet, au départ, vous l'aviez programmé dans quel but et dans quel cadre? Il s'insérait comment pour vous dans le projet du Tangram?
Alors bonjour d'abord. Il était inscrit dans un des axes que je souhaitais développer, axe du projet artistique et culturel que j'avais proposé d'ailleurs dans le cadre de ma candidature pour avoir la direction du Tangram. Et un de ces axes, c'était vraiment de chercher un mode de relation entre des habitants et on va dire des œuvres d'art en général, qui soit peut-être un peu plus singulier ou en tout cas différent du simple rapport de spectateur tel qu'on peut l'avoir dans un théâtre et ce qu'on fait évidemment la plupart du temps. Et un des axes possibles pour inventer un type de relation différent, c'est d'être acteur soi-même de cette relation-là. D'où les projets dits participatifs, et le projet des veilleurs rentrait complètement dans cette approche des publics, et donc même avant même des publics, en tout cas des habitants qui habitent ici sur Évreux, Louviers et sur le département.
Alors pour rappeler, ce projet, c'est une artiste chorégraphe Joanne Letton qui l'a conçu, créé, que vous avez accueilli dans votre structure. On peut rappeler simplement le concept qui était de faire veiller deux personnes différentes chaque jour. Une personne le matin pendant une heure au lever du soleil et une autre personne le soir pendant une heure au coucher du soleil. Et donc de demander aux habitants du territoire de venir dans cet abri, cet objet abri qui était posé place Clémenceau en haut du parking, de avoir un état de présence pour leur ville à ce moment-là. C'est bien, voilà, pour résumer, pour résumer rapidement le projet. Donc oui, de demander la présence en fait des habitants à un moment donné, à un endroit particulier.
Je crois que ce que recherche Joanne Layton, c'est d'abord effectivement une démarche alors chorégraphique, ça paraît un peu peut-être présomptueux de dire ça, ou en tout cas surdimensionné, mais pas du tout en fait, parce que c'est bien une performance qui est demandée à tout un chacun de façon très volontaire, préparée et dans un espace très contraint, puisque c'était un objet, ce qu'on a appelé l'objet abri, qui était qui a été conçu spécifiquement pour Évreux, et qui, tout cela étant finalement des étapes par lesquelles un danseur passe avant d'être en expression chorégraphique traditionnelle. C'est-à-dire, il se prépare, il s'échauffe quelque part. C'est un peu ce qu'on a fait à travers les ateliers préparatoires. Et puis, il est dans les coulisses. C'était cet espace spécifique pour les veilleurs où on les accueillait pour se détendre, prendre un café, avant de rentrer sur scène. Et c'était l'objet abri qui faisait office de plateau scénique dans lequel la personne se retrouvait seule face, alors non pas à un public réuni spécifiquement pour le voir, mais face à une personne, on peut dire ça comme ça, qui est la ville d'Évreux avec son paysage, avec ses caractéristiques urbaines, minérales d'un côté, végétales de l'autre, puisque l'objet était orienté est-ouest, ce qui permettait de voir à la fois lever et coucher du soleil suivant les cas de figure, et surtout de porter un regard sur cet espace qui était devant nous, tout en sachant, comme le danseur, qu'on est à la fois regardant et regardé. Et c'est ça qui fait projet chorégraphique. En y ajoutant une chose exceptionnelle, c'est que ce projet-là, il était continu sur une année et rendait la performance à caractère plutôt individuel à une dimension complètement collective, puisque cette grande chaîne mise bout à bout a quand même réuni rien de moins que 730 personnes.
Paris tenu.
Ouais, pareil tenu, oui.
Et donc pour une structure telle que le Tangram, puis même pour une équipe, enfin un projet sur une année participative n'est pas la même façon d'aborder une performance, un spectacle que quand on diffuse simplement une fois ou deux fois un spectacle dans une saison. Pour vous, qu'est-ce que, alors de l'intérieur peut-être là, de la structure, qu'est-ce que ça a apporté? Pour vous, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a fait vivre?
Ça fait bouger des lignes. Et moi, j'avais fait un choix qui était assez, qui était un vrai défi au-delà du projet en lui-même, qui était de lancer ce projet-là dès mon arrivée. C'est-à-dire que, certes, il a démarré en septembre 2017, mais moi, j'en ai commencé à en parler à l'équipe en décembre 2016. Donc, sachant que je suis arrivé en avril de la même année. Donc, c'est vrai que nous-mêmes, on n'était pas encore en confiance, si, mais pas en tout cas dans une connaissance de notre façon de travailler, etc. C'est-à-dire qu'on allait. Moi, mon défi, c'était de se dire que ce projet-là allait nous permettre aussi, entre nous, de mieux comprendre ce qu'était finalement un des objectifs que moi je donnais à l'établissement public et donc à l'équipe, et que pour cela ça nécessitait forcément une remise en cause de la façon de travailler. Les veilleurs, on ne va pas chercher, chercher le mot est peut-être un peu brut, mais en tout cas sensibiliser les habitants pour être veilleurs de la même manière qu'on le fait pour qu'ils soient des spectateurs pour un spectacle lambda. C'est pas la même chose. Je pense que c'est en cela que ça a déplacé. Ça nous a tous déplacés. Et en même temps, ça nous a tous réunis autour d'un projet en commun. Et ça, c'était très important pour moi que ce projet soit partagé, si possible, par tout le monde. Alors, pas au même degré, sans doute, parce que ça, c'est très, très difficile. Mais en tout cas, que chacun en comprenne les enjeux et surtout, y prenne part. Comme on demandait d'ailleurs aux habitants de prendre part au projet. Mais nous, on le faisait en tant que professionnels, c'était un petit peu différent. Mais quand même, il y a très peu de projets au sein d'un théâtre qui puissent à ce point être transversal et réunir tout le monde. C'était un des objectifs. Alors maintenant, c'est sans doute un petit peu tôt pour évaluer les effets de cela. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça a confirmé une capacité de travail collective. Et puis aussi, sans doute, ça a permis à tout un chacun de voir sa propre propension ou pas à aller en territoire inconnu. Et ça, c'est très bien. Enfin, c'était un des objectifs. Maintenant, à nous de relever les manches. Quand je dis relever les manches, c'est de se dire comment on prolonge ça. C'est-à-dire que ça nous a tous un petit peu bousculés quand on dit que ça nous déplace. C'est-à-dire que je suis plus dans mon quotidien traditionnel, mais professionnel. Mais par contre, ça m'a servi à certains endroits, et sans doute que je vais pouvoir m'en servir sur autre chose que l'éveil. Dans mon propre travail, dans mon propre quotidien.
Alors parlons des personnes qui ont participé, des habitants qui sont 730, j'imagine d'un territoire très élargi du département. Ils viennent, enfin, je pense que vous êtes peut-être dans l'étude du public de cela, justement. Et qu'est-ce qu'on en fait après de ces personnes pour un établissement. C'est un gros projet, c'est un lien assez particulier qui est une relation quand même de personne à personne hein, au départ qu'elle travaillait, et donc pour la continuité de cette relation à la structure aussi. Comment, il y a des fils tendus, il y a des fils proposés?
D'abord, je voudrais dire qu'on respecte ça. Respecter cette relation-là, et là, je vous le cache pas, pour moi, ça a été une découverte qu'elle soit à ce point dense et finalement très intime. Donc ça, faut respecter ça. Et respecter ça, ça veut dire que il faut écouter, savoir répondre et apporter et savoir dire oui, on peut prolonger. Je vais répondre à votre question, mais on peut. Il y a certains endroits où faut que ça s'arrête parce que c'est quelque chose qui doit rester dans une sphère justement individuelle et privée, et cette relation très très forte qui s'est créée, de toute façon on pourra pas la continuer de la même manière, ça n'est pas possible. Le projet dit chorégraphique, lui, est terminé. Maintenant la question, c'est pour nous comment le lien qui s'est tissé avec la structure et avec justement l'équipe qui travaille au sein du Tangram, comment ce lien-là, on le continue. Beaucoup de veilleurs nous ont dit effectivement, et après, avec cette question, ne nous laissez pas là au bord du guet, est-ce qu'il y a un autre bateau qui va passer pour qu'on puisse monter dedans? Donc ça, la réponse, on a commencé à l'apporter en travaillant finalement sur ces deux choses-là. D'un côté, continuer à tirer le fil purement artistique en disant, mais voilà, il y a pour celles et ceux qui ont envie de continuer sur la question de la danse, sur la relation qu'ils ont pu sentir pouvoir tisser avec la chorégraphe. Il y a des rendez-vous dans la saison avec Sunlight, qui est une des créations de Joanne Layton, qui va venir jouer ici au Cadran. Il y a aussi des ateliers qui vont être proposés, toujours en présence de Joanne, pas d'atelier, une conférence, pardon. On pourra revoir Joanne aussi, qui elle-même se met entre guillemets un peu en danger avec une autrice sur une performance dans le cadre de concordance. Voilà, trois rendez-vous, je dirais, qui prolongent quelque chose qui est de l'ordre du sensible lié à la danse. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie de continuer à être acteurs, là, on a proposé des choses relativement variées pour participer, qui a des ateliers d'écriture avec l'auteur associé cette année, Sylvain Levet, ou encore d'autres ateliers mais liés à de la correspondance pour continuer à avoir une liaison avec d'autres avec ce projet qu'on va conduire autour du spectacle Tous des oiseaux, ou encore des ateliers cette fois liés qui vont réinterroger la présence comme pendant le projet, mais cette fois non pas la présence du corps au sens chorégraphique du terme, mais de la parole. Et c'est les ateliers du Tangram, donc les ateliers théâtraux. Voilà, c'est encore une autre façon de lier les choses. Et puis aussi pour les musiciens, continuer de participer d'un gros projet participatif, puisque c'est le prochain We Love Rock'n'Roll, où là on va tenter de réunir 1000 musiciens amateurs pour un concert unique le 23 juin prochain. Voilà les fils qu'on continue à tirer, mais encore une fois, je voudrais insister là-dessus. Je trouve que il n'y a pas de. Moi, ma volonté, c'est qu'il est hors de question d'instrumentaliser des femmes et des hommes qui ont participé à un projet. Si elles ont envie que ça s'arrête là, ça s'arrête là, et c'est déjà génial. Maintenant, nous on est là pour dire on peut continuer des aventures différentes, individuelles, collectives, et si vous en êtes d'accord, on vous resollicite.
C'était Christian Mousseau-Fernandez qui était à tes micros, Nathalie. Oui. Il est l'heure de remercier nos invités afin d'arriver à la conclusion de cette émission.
Alors, merci à vous tous, Mathilde, Elodie, Serge et Delphine.
Merci à vous.
Bonne continuation. Et merci. Bon, les agendas, on vous les laisse.
Voilà, vous avez Internet.
Vous avez Internet. on détaillera sur la prochaine émission. Et là, on voulait finir avec vous, avec un film, le dernier film de Philippe Faucon, qui s'intitule Amine, qui vient de sortir dans nos salles. Voilà, elle est dans les bonnes salles qui le diffusent. Et avec Amine, le réalisateur Philippe Faucon filme le moment où souvent les hommes s'en vont. Et là, ça raconte l'histoire de Amine, qui est en situation d'exil, un émigré sénégalais, qui vient travailler en France pour aider sa famille en Afrique. Et le temps d'un chantier, il partage un moment d'amour avec une Française qui sait aussi ce qu'est la solitude et la solidarité. Voilà, c'est une vraie gestion du temps et des sentiments qui est très, très sensible, très fin. Et je vous conseille vivement d'aller le voir.
Nous vous donnons rendez-vous le premier vendredi du mois de novembre. Entre deux, n'oubliez pas que dans les coproductions Tangram Principe Actif, il y aura maintenant le troisième vendredi de chaque mois, le rendez-vous avec l'équipe musique actuelle, celle du Cube.
Vous connaissez le chemin ?
Oui. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Amine, vous faites une pause ?